la première opinion. Alors, je vais vous demander si vous le voulez bien de la lire à haute voix.
Le meilleur français, c'est celui que parlent les Français de France.
Qu'en pensez-vous ?
Mais je suis assez d'accord, en fait, oui. Il suffit d'entendre, et je me fais souvent la réflexion, je fais souvent la réflexion à la maison, il suffit d'entendre de petits jeunes gens, même des enfants, interviewés à la télévision française. Ils ont une verve extraordinaire, ils s'expriment avec tellement de facilité. Quand vous entendez les petits Belges, ou même les adultes Belges, s'exprimer à la télévision, ils n'ont pas d'abord le même aplomb, et je crois qu'ils pratiquent un plus mauvais français, ça, incontestablement. Je crois qu'on reproche par ailleurs aux Français de mal prononcer Maastricht, aux commentateurs de la télévision de démarrer une émission, etc. Mais globalement, c'est vrai que les Français parlent mieux le français que le belge.
Et alors, au regard de la francophonie, si vous deviez citer un pays dans lequel on parle mieux le français, vous citeriez quel pays?
Oui, disons, oui, bien sûr. Dans la francophonie européenne, vous voulez dire? Non.
Non, dans toute la francophonie.
Bon, ça n'est certainement pas le Canada. Peut-être les Suisses du canton de Vaud. Peut-être, oui. Enfin, là, j'ai moins d'appréciation. Oui.
Et est-ce que, d'après votre réponse, est-ce que vous pensez qu'il y a un pays où on parle moins bien le français?
Vous tournez autour du pôle. Bon, je crois que ce serait le Canada. Oui. Parce que je trouve cet accent tout à fait déplorable. Et quand vous entendez parler même les plus hautes autorités du pays, c'est assez...
Est-ce que vous connaissez des expressions propres à la Belgique?
Des belgicismes?
Est-ce que vous en auriez en tête?
Non. Pas à première vue. En fait, moi, je suis de la région de Tournai. Et pratiquons entre nous plutôt le Picard, qui est un peu le patron du Nord. Non, une expression bien typiquement belge ne me vient pas à la tête. Ce serait peut-être plus facile à choisir à Bruxelles. Une expression comme non, peut-être. Mais sinon, non, ça ne me vient pas.
Et alors, justement, vous parlez de votre région. Est-ce que vous avez une expression, vous songez à des expressions propres à votre région?
Mais je dois dire que je pratique finalement très peu le patois picard. Je crois que je vais avoir répondu, sauf parfois à l'occasion avec quelques amis, pour simplement nous faire plaisir. Mais pas proprement parler, là vous me prenez un peu de cours. À Tournai existe une association qui s'appelle... Bon, qui est suivie, mais qui est suivie par, en général, beaucoup de gens du peuple, du quartier populaire, de Tournai, etc. Mais ça ne sort pas du cadre des murs proprement dit, de la ville même, de la ville historique, je ne parle pas de l'entité. Bon, il n'y a pas une expression particulière qui me vient...
Est-ce que, au regard de la Belgique, alors cette fois-là, est-ce que vous estimez qu'il y a une région en Belgique où on parle mieux le français?
Je crois quand même que c'est la région de Tournai. Quand j'entends parler le patois liégeois, le véritable patois liégeois, le véritable patois bruxellois, les carolos, c'est assez rocailleux, je crois quand même que c'est le Picard. Oui, sans chauvinisme aucun.
Donc, inversement, est-ce qu'il y aurait une région où on parlerait alors nettement moins bien le français?
Je crois que c'est Bruxelles.
C'est Bruxelles?
Oui.
Et à votre avis, vous justifieriez ça?
Peut-être l'existence de langues et l'interpénétration. À mon avis, ça doit être cela, oui. Parce qu'en fait, d'autant que je puisse en juger, le patois bruxellois englobe pas mal d'expressions néerlandophones, à mon avis, oui. Ce n'est qu'un avis.
Ok, oui, mais c'est ce que je vous demande, c'est votre avis. Alors, voici la deuxième affirmation.
Oui, moi, on me reproche souvent mon accent tournaisien. Je serais tenté d'être tout à fait d'accord.
Parler, c'est parler sans accent.
Quand on entend parler les Parisiens, c'est vrai qu'il y a très peu d'accent parisien, mais ils ont un petit côté pointu qui peut être déplaisant. Mais je crois quand même que parler sans accent, c'est bien parler.
Oui. Qu'est-ce que ce serait pour vous l'accent? Comment vous le définiriez?
Je crois que j'ai un exemple bien précis dans ma région. C'est que le Tournaisien en fait pratique le Picard, mais il y a une région bien, bien précise qui est la région des carrières. Les ouvriers sont des gens durs, et apparemment leur patois, leur accent est plus rocailleux.
C'est ça.
Est-ce que ça tient sans doute au milieu économique, au milieu du travail? Oui, voilà. Oui, enfin, c'est quelque chose d'inné, bien sûr, mais je crois qu'il y a des particularismes en fonction de la vie économique et sociale.
Et donc, l'accent, alors, ce serait... qu'est-ce que ce serait exactement?
L'expression du terroir.
L'expression du terroir, c'est
oui,
ça.
Oui.
Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure qu'à votre avis, les gens de Paris parleraient sans accent?
Moins d'accent à Paris que dans le nord de la France, que je connais très bien, moins d'accent à Paris que dans le sud, à mon avis, mais avec une espèce peut-être de prétention.
C'est ça.
Qui peut être déplaisante, mais je crois quand même que c'est Paris qui pratique le français le plus proche de la réalité.
C'est ça. Et donc pour vous, le critère qui permettrait d'identifier les personnes qui parlent sans accent serait un critère plutôt régional que, je pense, un critère d'âge, ou professionnel, ou scolaire, ou autre.
Le critère scolaire, bien sûr, intervient. Le milieu familial intervient également, c'est évident. Mais je crois que dans le cas typique de la France,
c'est plutôt le...
la capitale, à mon avis. C'est ce qui ne paraît pas vrai en Belgique.
Alors, en Belgique, ce serait les deux autres critères.
Oui, à mon avis, le milieu familial, l'éducation proprement dite, la formation, je crois qu'il y a beaucoup de critères qui entrent en ligne de compte.
Vous-même, est-ce que vous estimez avoir un accent?
Je ne m'en rends pas compte en parlant, mais d'emblée, quand je rencontre des gens, « Ah, toi, tu es tunisien », etc. Bon, ça me fait plaisir dans un sens, mais j'essaie dans la mesure du possible de...
Alors, ce sont plutôt des personnes qui ne sont pas de votre entourage, alors?
Oui, bien sûr. Oui. Je crois d'ailleurs qu'il y a une chose, c'est que quand on s'entend parler, en général, on ne s'aime pas.
Quand on se réécoute?
Oui, quand on se réécoute, en général, oui.
Oui,
j'ai déjà remarqué ça, ce n'est pas seulement typique, mais je crois que c'est... Oui. Peut-être parce qu'à ce moment-là, on se rend compte de certaines imperfections.
Et alors, on vous a dit que vous aviez un accent picard. Comment vivez-vous? Alors, ça vous indiffère?
Oh, tout à fait. Oh, tout à fait, oui. Je vous dis, je prends parfois plaisir. En général, je ne le parle pas, parce qu'ici à Bruxelles, il y a des Liégeois, des Bruxellois, etc. Sauf parfois une petite expression. Mais sinon, quand je le parle, bon, c'est entre amis, une petite soirée, etc. Non. Même pas à la maison.
Même pas à la maison, donc. Et vous venez de dire que de temps en temps vous aviez une expression picarde, vous pouvez m'en citer
une? Une expression picarde.
vous pouvez. Là.
Bon, quand je dis expression picarde, bon, on s'exprime en picard, oui, c'est ça, c'est un fait, bon, je ne sais pas.
Je suis de la région de Mons, donc je
comprends. Ah, oui, mais c'est assez différent, en fait.
C'est
différent.
Ça reste
le Picard, oui.
C'est la famille du Picard, mais...
Moins marqué. Ça n'est pas Charleroi, ça n'est pas Tournai, mais...
Non.
Oui.
Mais c'est encore le Picard,
oui.
Quand même.
Une expression typiquement tournaisienne. Bon, il y a une expression bien typique qui concerne le lundi perdu. Lundi perdu à Tournai, celui qui n'a pas de lapin n'a rien.
En fait,
le lundi perdu, c'est le lundi qui suit l'épiphanie. Et c'est une tradition à Tournai, mais qui est restée quand on est à Tournai, au Tournai historique, à Tramuros. Et c'est ce jour-là, les gens, dans les ménages, on mange le lapin. Le boudin blanc, le boudin noir et la salade dite tournaisienne.
Ah oui, c'est vrai.
14 ingrédients.
14 ingrédients.
Oui.
Ah, ça, je ne savais pas par contre. Et alors, pour revenir à notre histoire d'accent, est-ce que vous estimez que ça influence la perception qu'autrui peut avoir de quelqu'un?
Oui, je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait quelque chose, enfin. Quelque chose, ça me touchait quand j'entendais le Premier ministre canadien s'exprimer de cette façon assez déplorable, je crois. Oui, je pense. Oui.
Donc, ce serait dans le sens plutôt négatif.
Plutôt négatif.
Dans le cas de la présence d'un accent. Alors.
C'est cela, oui. Tout ça dépend d'interlocuteur, évidemment.
Oui. Alors, je vais vous proposer la troisième affirmation.
Il n'y a plus que les vieux qui parlent wallon. Mais en fait, je serais tenté de dire que dans en ce qui concerne les patois, il y a les puristes. Mm-hmm. Je reprends mon exemple à Tournai, il existe en club.
Oui.
Et je crois que ce sont les derniers défenseurs de ce qu'on peut appeler le véritable patois tournaisien.
Oui.
Et même dans ce domaine, il y a des différences bien marquées. C'est que nous avons Tournai jeudi. Il y a une section dialectale de la Maison de la Culture, oui. Et il y avait dans le temps un chantre du patois tournaisien qui était l'avocat de la Cour d'appel de Bruxelles, qui est décédé maintenant. Et bon, ils étaient les tenants d'une tendance ou d'un vocabulaire assez différent. Enfin, globalement, il y a donc ces organismes qui sont les tenants du bon patois et également les vieux tournaisiens. Les jeunes, à mon avis, le pratiquent moins. Moi-même, j'ai 54 ans, j'entends des mots tournaisiens. Mm-hmm. Je suis né dans la région. Mm-hmm. J'entends des mots tournaisiens que je n'entends plus prononcer maintenant.
Ah oui.
Je les entends quand j'y vais, c'est excessivement
ça.
Rare,
c'est ça.
Mais que je n'entends pas dans la vie courante.
Et
par exemple, un petit mot, mm-hmm. Un polichinelle. Mm-hmm. À Tournai, on entendra partout dire un polichinelle. Mm-hmm. Et le patois, le mot que défendent le cabaret et les plus anciens, c'est porriginelle.
Ah. Oui.
Dans une chanson, à Tournaisienne, c'est un porriginelle. Uh-huh. Alors que dans la pratique courante, tout le monde
c'est
dit
ça.
Polichinelle. C'est donc ça. On se démarque, je crois que les jeunes se démarquent plus encore que ma génération
oui.
du véritable patois.
Et d'après vous, les jeunes usent moins du picard dans leur communication quotidienne?
Je le crois, tout en ayant peut-être l'accent.
Oui.
Quand même.
Oui. Et alors, vous...
Je l'entendrai, par exemple, je n'ai jamais entendu mes filles, j'ai trois filles, s'exprimer en...
C'est ça.
Oui, bah plus jeune, alors qu'elle ne faisait pas encore des études supérieures.
Oui, oui, oui. Elle ne le pratiquait pas.
Quoi. Non, non.
Et même avec... est-ce que des copines ou des amis à elle...
Pas à ma connaissance.
Pas
à ma connaissance. Pas... Quelques filles qui viennent à la maison, ou très peu, bien sûr, dans un autre un mot.
Oui, oui.
qui trahit leur origine, uh-huh. Mais sinon...
Et alors,
il y a des exceptions, bien sûr.
Oui. En tant que journaliste, est-ce que vous estimez que vous avez un rôle à jouer dans la transmission et l'évolution des dialectes?
Je ne crois pas. En mon sens, je souhaite simplement une chose, c'est qu'il y a une tendance, notamment à Tournai, je m'excuse de revenir toujours à Tournai, qui souhaitait que le patois, le picard, soit appris dans les écoles.
Oui,
moi,
oui.
Je trouve qu'il serait de loin préférable à ce qu'on... Parce qu'on approfondisse les cours de français pour que chacun s'exprime un petit peu à la façon des petits français et des adultes de France.
Mm-hmm.
Donc moi, personnellement, je ne ferai aucune démarche pour promouvoir les patois locaux.
Ok. Mais bon, pour vous, ça, donc, ça a plutôt un rôle un peu divertissant alors,
Oui,
je crois que
vous avez trouvé oui, ce qu'il fallait, oui. Oui. Moi, je crois que...
Ou pittoresque. Pas.
Pittoresque, oui.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ça reste, oui, c'est dans quelques petits cénacles. Sinon, je ne crois pas que ce soit tout à fait indispensable.
Mm-hmm. J'ai oublié de vous demander, ici, à propos de cette troisième affirmation, quelle note vous attribueriez?
Plutôt d'accord.
Plutôt d'accord.
Oui.
D'accord. Alors, la quatrième, affirmation.
Mais là, oui, je crois que... On parle souvent le wallon, on ne parle pas bien le français. Je crois que oui.
Vous croyez
oui, là, je suis tout à fait d'accord, je dirais.
Tout à fait d'accord.
Oui,
mm-hmm.
oui.
Vous...
Je crois qu'il est difficile. Il m'est arrivé de trouver, parce que c'est le métier qui l'oblige, avec personnalité tournaisienne et autres. Mais ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas dans leur élément quand ils veulent, eux. S'exprimer dans leur non, je crois que dans leur patois d'origine. Je crois qu'on ne peut pas à la fois parler souvent le wallon et bien parler le français.
Oui, oui. Vous avez constaté les deux aspects. Donc, par exemple, une personne dont vous savez qu'elle parle tout le temps picard,
oui.
Est-ce que vous avez constaté donc qu'elle avait des difficultés à s'exprimer en français?
Oui, certainement. Bon, ça ne touche pas au milieu intellectuel, c'est évident. Mais j'ai côtoyé des personnes qui, parlant en général, tout le temps, le wallon, enfin, le pas trop tunisien, ne savait plus s'exprimer correctement en français. Ça, c'est, ça, c'est indéniable. Mais j'ai remarqué aussi une chose, c'est que des gens d'une certaine élévation sociale, voulant se faire plaisir, parce qu'on se rend compte qu'ils se font plaisir à ce moment-là, s'exprimer en wallon, on sent très bien qu'ils ne sont pas mal en élévation.
C'est ça, c'est ça. Ah oui, donc vous, vous avez les deux,
c'est ça,
les deux tendances.
Les deux tendances.
Oui. Et alors maintenant, si je vous demandais, qu'est-ce que bien parler français, alors, pour vous?
Je vous répondrai bien parler français. Je vous répondrai en journaliste. En fait, bien parler français, c'est employer des phrases courtes à la portée de tout le monde. C'est bien vulgariser les choses. C'est finalement bien se faire comprendre avec des mots simples.
C'est ça.
Je crois qu'il ne faut pas du genre d'Ormesson en longueur de journée dans un journal ou du Poels. Mais je crois qu'il faut aller directement au fait du sujet. Vulgariser, pour bien vulgariser, il faut bien connaître son sujet. C'est parler simplement, finalement.
C'est ça.
Oui.
Alors, une question plus personnelle. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise quand vous deviez prendre la parole, hormis le fait que la situation était stressante? Est-ce que le fait de devoir prendre la parole vous a déjà...
Mais c'est-à-dire un stress. Le stress, je l'ai éprouvé tout au début, quand j'ai dû me... quelques émissions de télévision quand je m'occupais de la rubrique politique belge. Bon, il y a un trait indéniable, la présence de la caméra, etc. Mais l'émission lancée, je ne me suis jamais trouvé en difficulté, ce qui m'a étonné par la suite, parce que je suis d'un naturel timide, que j'ai essayé de vaincre au fil du temps. Mais c'est vrai qu'une fois le tract dépassé, je n'ai jamais éprouvé trop de difficultés.
C'est ça. Donc, prendre la parole ne vous stressez pas outre mesure.
Non, pas plus.
Si ce n'est le fait qu'il y avait une caméra.
Mais il y a des situations plus difficiles que d'autres, c'est un fait, mais l'œil inquisiteur de la caméra, c'est quelque chose.
C'est pas très facile.
Le micro, c'est rien.
C'est pas très facile à gérer une caméra. Alors, voilà la cinquième.
Plus on fait d'études, mieux on s'exprime. Oui, tout ça, oui. Moi, je serais plutôt d'accord. Ça, bien sûr, dépend des études entreprises. Évidemment que si on fait des études littéraires... je crois que je n'ai rien d'autre à dire, en fait, oui. Oui, on se trouve devant des situations, devant des réalités que l'on appréhende au fil du temps. Donc, je crois que c'est tout à fait...
Donc, si je peux reprendre ce que vous avez dit, c'est plus on fait d'études, mais pas n'importe lesquelles. Donc.
Pas n'importe lesquelles. Je pense, oui.
Est-ce qu'on pourrait...
Bon, quelqu'un qui fait des études d'ingénieur...
J'allais vous le demander.
Oui. Enfin, c'est possible, je crois que je peux me tromper, mais... Qui fait une étude ou deux... Un an ou deux d'études universitaires supplémentaires, je ne sais pas si son français gagnera davantage. C'est bien possible, mais enfin, je n'ai pas un avis tout à fait particulier, là.
Ok. Merci, voilà.
Oh là non. Je vais vous dire une chose, ça me désole assez. On a une moyenne d'âge très, très basse ici, en domaine de l'accent, très jeune. Je crois que ça ne dépasse pas 25-30 ans. Mais je me rends compte d'une chose. On trouve beaucoup trop souvent des mots anglais. À tout moment, dans les textes des jeunes journalistes, le mot « must » est employé. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte du fait qu'il y a 50% de nos lecteurs qui sont des gens de 60 ans, etc. Je dis 50%, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais pour qui l'anglais est une langue tout à fait... Moi, je crois que la langue française est tellement belle que nous avons toutes les ressources en son sein et qu'il n'est pas nécessaire d'employer des mots d'une autre langue pour bien faire passer le message. Et je crois aussi que le vocabulaire est de plus en plus restreint. Sorti de génial, super, de waouh, il ne reste plus grand-chose, et c'est identique pour la conversation de tous les jours. Non, les gens, les médias n'emploient pas un français modèle. Je vous ai dit tout à l'heure que ça me faisait mal quand j'entendais quand nous allons démarrer l'émission ou que des gens étaient nominés. Mais bon, ça finira par passer dans le langage courant. Je crois qu'on a parfois un parallèle qui est tout à fait saisissant quand vous entendez certaines personnes qui s'expriment. Il faut pas aller jusqu'à l'Académie française pour s'en rendre compte, mais quand vous entendez des gens qui s'expriment dans un français tout à fait impeccable par rapport à la moyenne générale, ça montre bien la réalité des choses.
C'est ça. Pour revenir au cas de la France, est-ce que vous pensez que les journalistes français s'expriment mieux que les journalistes belges?
Hormis ces quelques réserves, oui, je crois que c'est général à l'ensemble de...
Du pays.
C'est sans doute moins marqué, puisqu'en fait, bon, le monde journalistique belge est quand même... Mais c'est un piège que vous trouvez là. Mais bon, globalement, moi je considère que les Français s'expriment avec beaucoup plus facilité, beaucoup plus d'aisance. Mm-hmm. Ça tient le vent, puisqu'en fait c'est Grévis qui leur a montré la voie.
Oui. Donc... c'est vrai. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont votre français est perçu par vos lecteurs? Ou bien vous
avez... Le mien personnellement.
Oui. Votre...
Mais je vous dis, moi, j'essaie dans la mesure du possible de faire une chose, de venir très rapidement au sujet, de faire des phrases courtes, simples. Je bannis tout ce qui est expression étrangère. Mm-hmm. J'évite dans la mesure du possible les cycles, les guillemets, les parenthèses, les tirets, etc. Mm-hmm. Bon, mais j'espère, je crois me faire comprendre ce que je veux faire comprendre, simplement, sans aucune prétention.
Et alors, au risque de vous faire dresser les cheveux sur la tête, est-ce que vous avez un background? Enfin, est-ce que vous avez un retour de la part des lecteurs? Bon, par exemple, certains journalistes m'ont dit qu'ils recevaient du courrier.
Je n'ai jamais personnellement reçu un courrier négatif.
C'est ça.
Non.
Donc.
Non. Je vous dis, j'ai une règle de conduite. Je ne suis pas de la génération des 25 ans. Je n'ai pas été marqué comme eux par les chansons en anglais, etc. Moi, je me mets au niveau du lecteur. Mm-hmm. Je dis le lecteur attend non pas un message, surtout pas un message, c'est une information claire et précise. C'est tout, je m'y tiens sans rechercher des faits littéraires, dans la mesure du possible.
Est-ce que vous pensez qu'il existe des personnes qui s'expriment très bien, très très bien?
Chez nous, au sein du journal?
De manière générale.
Oui, bien sûr.
Et si vous deviez les identifier, vous le feriez par quels critères? Une nouvelle fois, est-ce que ce serait des critères régionaux, sociaux, scolaires?
Non, mais mettez-moi en présence de quelqu'un qui parle très bien, je remarquerai son aisance.
C'est ça.
Je crois que c'est un bon langage, une belle forme d'expression, mais ça doit couler de source. Il ne doit y avoir aucune affectation dans le domaine. Non, il m'arrive d'écouter à la radio ou de voir à la télévision, de suivre à la télévision des émissions belges avec des gens qui s'expriment tout à fait parfaitement, ça c'est un fait.
Quel que soit un critère qui permettrait de les identifier,
Bon, et qu'ils aient déjà accès à la radio, à la télévision, ça traduit déjà plus ou moins un certain niveau. Une réussite sociale ou autre chose, qu'on leur donne la parole, bon, je crois que ce sont des gens en général d'un certain niveau.
Donc pour vous, il y aurait quand même le niveau social
Oui, je crois.
Dans ce sens-là.
Il en était question tout à l'heure.
Oui. Le niveau des études, quoi.
En général, oui.
D'accord. Alors, voici la dernière affirmation. Ah oui, pardon, excusez-moi, tout à l'heure, à la précédente, je crois qu'on n'a pas attribué de notes pour les gens des médias, emploi un français modèle, il me semble.
Mais je dirais entre les deux.
Entre les deux, d'accord. Oui. Il me semblait qu'on n'avait pas attribué de notes. Voilà. La dernière.
Les journalistes sont responsables de l'avenir du français. Mais je dirais qu'ils sont responsables de l'avenir du français de leurs lecteurs. Oui, dans une certaine mesure, mais... Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. On dit souvent qu'écrire dans un journal, c'est écrire sur les ailes du vent.
Oui.
Enfin, je crois que quelque chose qui est lu laisse un message. Quelque chose qui est vu, en général... Moi, je déplore souvent le caractère séquentiel des émissions de télévision, etc. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même par la lecture que l'on se forme. Je suis d'une génération où les gens lisaient sans doute davantage que les jeunes ne lisent maintenant. Dans une certaine mesure, je crois que c'est vrai. Mais encore une fois, avec beaucoup de modestie.
Beaucoup de modestie. Oui. Vous mettriez quoi comme...
Cultural est plutôt d'accord.
Plutôt d'accord. Oui. Alors, en général, on confère au langage journalistique une fonction de communication.
Oui, et de vulgarisation.
Oui. Et est-ce que vous pensez à d'autres fonctions que cette fonction de communication? Oui, vulgarisation, vous venez d'en parler.
Oui.
Est-ce que vous songez encore à d'autres fonctions spécifiques ou plus importantes que celle de communiquer?
transmettre un peu de rêve parfois. Transmettre du rêve, bon, de l'espoir, mais là c'est plutôt le message du contenu. Non, le rêve, oui, quoi. Oui. Non, je ne vois.
Oui. Est-ce que vous pourriez définir le rôle que les journalistes ont à jouer dans l'évolution et la transmission du français?
Mais, en le parlant tout à fait, et en l'écrivant surtout tout à fait honorablement, si je puis dire, en évitant le recours aux autres langues. On a eu, je me ramène encore une fois, je ramène les choses au journal. Fut un temps, du temps de l'ancien rédacteur en chef, on avait pour habitude, même dans les titres, d'employer des mots de langue étrangère. Quand il s'agissait de dire la grandeur d'une chose, on employait volontiers le mot colossal avec un K, comme les Allemands. Moi, je trouve ça tout à fait déplorable. Non, écrire le français correctement, envoyer un message simple, je crois que finalement, non, je m'en tiendrai à cela, parce que...
Votre oui, position.
C'est cela. Oui.
Alors, je vais vous demander, c'est une dernière question qui est un peu vache, on la trouve vache parce que. Je vais vous demander de réfléchir à 5 adjectifs qualificatifs qui permettraient de. Comment dire. De définir le langage journalistique. Je vais vous demander de les classer.
Tel qu'il devrait être.
Tel qu'il est. Et je vais vous demander de les classer dans l'ordre décroissant d'importance. C'est ça. Alors, c'est comme vous voulez, que vous avez peut-être envie de réfléchir avec une feuille de papier.
Oui. Voilà.
Merci. Donc, vous songez...
Langage simple, concis, clair, précis, vulgarisateur.
Alors, vous mettez donc en numéro 1, simple. Oui, ça, on l'a évoqué tout à l'heure.
Oui.
Alors,
qui est la qualité principale, hein, c'est cela, hein, oui.
Ensuite, clair.
Clair, c'est-à-dire accessible. Accessible, il faut tenir compte que le lectorat, c'est un éventail qui va de A à Z.
C'est ça, très vaste.
Oui. Je crois qu'il faut pouvoir s'adresser à tout le monde et se faire comprendre de tout le monde.
Oui. Alors ensuite...
Vulgarisateur, bien expliquer les choses, je crois que c'est tout à fait important.
Didactique,
j'aurais pu employer ce mot-là.
Oui. Et ensuite...
Précis, qui convient les choses, s'inscrire dans un canevas bien clair, concis. Oui. Concis, mon Dieu, ça c'est... Bon, je ne veux pas dire que c'est plus accessoire. Il y a quelques années, une étude a été réalisée pour une dizaine d'années. Et on s'est rendu compte, à la lecture des résultats de ce sondage, que des articles qui dépassaient 75 lignes de longueur n'étaient pas lus.
Oui,
sauf si ça concernait véritablement une personne bien précisément.
Un autre journaliste m'a évoqué cette étude.
Et disons que je suppose que c'est un peu partout pareil, mais nous en général... Un article de tête, de page, c'est 112 lignes journal maximum. Ensuite, tout tournant autour de 80 et 60, etc. Mais donc, la concision, c'est important, mais comparativement aux autres, ça vient. Oui. Puis, à la façon d'habiller l'article, les intertitres sont importants. Un long article avec des intertitres est plus lisible que...
C'est vrai. Ok, je vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie.
C'est bien gentil.
Vous êtes de quelque utilité.